Bonjour. Il y a des paroles qui prennent, par les circonstances dans lesquelles elles sont prononcées, plus d'importance que d'autres. Je me rappelle par exemple très bien certaines des paroles du plus âgé de mes frères aînés, la dernière fois que nous nous sommes parlé au téléphone, peu de temps avant son décès. Il savait que ses jours étaient comptés et il me disait « il y a encore tellement de choses que j'aimerais faire ». J'y ai souvent repensé et j'y repense souvent et ces paroles ont pour moi une signification toute particulière. Les dernières paroles avant un départ, quelle qu'en soit la nature, sont souvent des paroles importantes. Ce sont les dernières recommandations. Ce sont celles qu'il ne faut surtout pas oublier. C'est souvent le rappel de quelque chose d'important, de quelque chose que l'on veut souligner. Nous trouvons dans les évangiles différents récits qui nous rapporte certaines des dernières paroles de Jésus à ses disciples. C'est une de ces paroles que j'aimerais méditer avec vous ce matin. Je crois qu'elle est particulièrement importante, non seulement parce que c'est une des dernières paroles de Jésus, mais aussi parce qu'elle donne à ses disciples une feuille de route, pour la suite du chemin. Je vous invite à lire avec moi ou à suivre en tout cas le texte qui est projeté, qui se trouve à la fin de l'évangile de Matthieu, chapitre 28, je lis les versets 16 à 20. Matthieu 28, à partir du verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, faites des gens de toutes les nations des disciples. Baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Le passage que nous venons de lire est connu en anglais comme « The Great Commission ». The Great Commission. La bonne traduction en français de cette expression anglaise, c'est « le grand mandat ». Le grand mandat. Je me souviens quand je suis revenu en France un été pendant mes études de théologie au Canada, d'un moment de solitude, quand j'ai un dimanche matin au culte dans l'église baptiste de Colmar où j'ai grandi, évoqué ce texte de Matthieu 28 et j'ai traduit littéralement que le Seigneur nous appelait tous à la grande commission. Il y a des mots qui se ressemblent en anglais et en français, mais qui n'ont pas tout à fait le même sens. C'est ce qu'on appelle de faux amis, et ce jour-là, j'ai appris à mes dépens cette leçon. Jésus est sur le point de quitter ses disciples. Bientôt, ils ne le verront plus. Bientôt, il sera enlevé devant eux, au ciel. Et Jésus leur donne ces dernières instructions. Il leur donne une feuille de route, il leur donne le mandat de faire de toutes les nations des disciples. Le grand mandat. Faire des disciples. C'est bien de cela dont il s'agit dans ces dernières paroles de Jésus. Il y a dans le grec, au verset 19 et au début du verset 20, un seul verbe principal et plusieurs verbes au participe présent qui se rattachent à ce verbe principal. Le verbe principal, c'est « faire un disciple ». Littéralement, on pourrait donc traduire ce grand mandat de la manière suivante. « Allant donc, faites des disciples de toutes les nations en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et en leur enseignant à garder tout ce que je vous ai prescrit. » Jésus donne mandat à ses disciples de faire des disciples, ce qui implique d'aller, d'enseigner et de baptiser. Nous sommes au début d'une nouvelle année, et c'est souvent à cette période que nous faisons des projets. Nous commençons par exemple à penser aux vacances d'été, aux dates auxquelles nous allons prendre nos congés, aux réservations qu'il va falloir éventuellement faire. Quels sont vos projets pour 2016? En avez-vous formulé certains? Pour certains, ce sera peut-être l'année où il faudra changer de voiture. Pour d'autres, ce sera l'année d'un déménagement ou celle de la construction de leur maison. Pour d'autres encore, ça sera l'année de transactions immobilières importantes. Pour d'autres toujours, ce sera l'année de travaux, un garage à construire, la chambre du bébé à aménager, les extérieurs à finaliser. Pour d'autres encore, ce sera l'année du bac, celle si déterminante des orientations à faire, des choix d'orientation à faire. Pour d'autres, enfin, et j'arrête là les exemples, ce sera l'année de la retraite, l'année d'un grand voyage ou l'année d'un anniversaire particulier. Faire des projets, c'est vivre. Et il n'y a rien de mal à faire des projets. Tout ce que je viens d'évoquer est légitime. Loin de moi l'idée de condamner les projets de qui que ce soit. Et ma question n'est donc finalement pas seulement quels sont vos projets en 2016, est-ce que vous avez des projets en 2016, mais aussi quelle est la place que vous accordez à la volonté de Dieu pour vous dans vos projets. Quelle est la place que vous accordez à la volonté de Dieu pour vous dans vos projets ? Y a-t-il de la place dans votre vie pour les projets de Dieu, pour vous? Y a-t-il de la place dans votre vie, dans vos projets, pour ce mandat que le Seigneur a laissé à ses disciples avant de les quitter? J'ai peur que très souvent, trop souvent, et j'en fais le constat dans ma propre vie, the Great Commission, ce grand mandat, ne devienne la grande omission. Jésus n'a pas donné ce mandat de faire des disciples à ses disciples pour qu'ils n'en tiennent pas compte. Ces dernières paroles de Jésus à ses disciples les engagent, nous engagent, si nous sommes disciples du Seigneur. Nous sommes responsables de transmettre à d'autres le beau message de l'Évangile que nous avons reçu, que nous avons accueilli dans notre vie, qui a transformé notre vie, qui nous a fait passer de la mort à la vie et qui a fait qu'il n'y a plus de condamnation pour nous si nous sommes en Jésus-Christ. Il est important que nous nous rappelions régulièrement que si Dieu nous a sauvés, il ne l'a pas fait pour que nous jouissions égoïstement de notre salut, pour que nous vivions notre vie de disciples sans nous soucier de toutes celles et de tous ceux qui vivent et qui meurent sans Dieu, minute après minute, et pour l'éternité. Dieu nous a premièrement sauvés pour nous-mêmes, parce qu'il nous aime. mais aussi pour servir. Nous avons été sauvés pour servir, pour le servir, pour accomplir sa volonté, pour partager la bonne nouvelle de l'Évangile, pour que nous allions et fassions des disciples. Oui, Dieu nous a sauvés pour que nous soyons ses témoins, les témoins de son amour, les témoins de ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ, les témoins de l'espérance que nous avons en Jésus-Christ. Notre responsabilité première de disciples du Christ n'est pas de faire du social, même si c'est bien d'en faire, mais ce n'est pas notre mandat premier. Notre mandat premier n'est pas d'éradiquer la pauvreté du monde, même s'il est important que nous nous en soucions. Notre responsabilité première est de faire des disciples. La tâche est immense. La tâche est immense et nous pouvons légitimement nous sentir écrasés par cette responsabilité. Dans un autre texte, Jésus dira que la moisson est grande. Grande. Des champs à perte de vue. Un monde immense. Oui, mais Jésus est le maître de la moisson. Et il est plus grand que ce grand défi. Au début de notre passage, Jésus affirme que toute autorité, tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Verset 18, Jésus s'approcha et leur dit, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. » Il est celui qui est au-dessus de toute chose. Après sa résurrection, Jésus a reçu les pleins pouvoirs de son Père. Écoutons ce que l'apôtre Paul écrit à ce sujet dans sa lettre aux Éphésiens. Il, c'est-à-dire Dieu, l'a mise en œuvre, il parle de sa force, il en parle dans le verset qui précède. Dieu l'a mise en œuvre dans le Christ, en le réveillant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus. Au-dessus de tout principat, de toute autorité, de toute puissance, de toute seigneurie, de tout nom qui puisse se prononcer, non seulement dans ce monde, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Et l'a donné comme tête au-dessus de tout à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alors oui, la tâche est immense. Pour nous, c'est même mission impossible. Mais Jésus est le garant de la réussite de cette mission. Toute autorité, tout pouvoir, lui a été donné pour que cette mission soit menée à son terme. Nous parlons, nous témoignons, mais c'est lui qui touche les cœurs et qui transforme les vies. La tâche est immense, la moisson est grande, et Jésus ajoutera même dans cet autre texte qu'il y a peu d'ouvriers pour entrer dans sa moisson. Pourtant, la moisson est prête. Dans Matthieu chapitre 9, versets 35 à 37, nous lisons « Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans leurs synagogues, proclamait la bonne nouvelle du règne et guérissait toute maladie et toute infirmité. À la vue des foules, il fut ému car elles étaient lassées et abattues comme des moutons qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Ailleurs, dans l'évangile de Jean, au chapitre 4, Jésus dira encore, « Ne dites-vous pas, vous, qu'il y a encore 4 mois jusqu'à ce que vienne la moisson ?» Eh bien, je vous dis, levez les yeux et regardez les champs. Ils sont blancs pour la moisson. Oui, la moisson est prête. Mais il y a peu d'ouvriers. C'est le constat que fait Jésus. Et il dit, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Est-ce que je prie le maître de la moisson ? Prions-nous Dieu, le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson ? Prions-nous Dieu, le maître de la moisson, de nous envoyer dans sa moisson ? Le prions-nous de se servir de nous ? Le prions-nous de nous utiliser ? Le prions-nous afin d'être un instrument utile dans sa main pour le salut de celles et ceux qu'il mettra sur mon chemin. Chers frères et sœurs, êtes-vous entrés dans la moisson ? Suis-je entré dans la moisson ? À quand remonte la dernière fois que vous avez partagé votre foi avec quelqu'un ? À quand remonte la dernière fois que vous avez témoigné de l'amour de Dieu pour vous et pour les hommes ? À quand remonte la dernière fois que vous avez expliqué le salut à quelqu'un qui ne comprenait pas ? Alors ne me comprenez pas mal, je ne cherche à culpabiliser personne. Je suis le premier à devoir entendre tout ce que je suis en train de dire. Comme vous, j'ai besoin d'entendre et de réentendre que Dieu m'appelle à faire des disciples. Il est si facile pour chacun de nous d'occuper son temps à autre chose. Il est si facile de faire un tas de choses inutiles dans la vie, de perdre son temps. Il est si facile de jouir égoïstement de la vie que Dieu nous a donnée. Il est si facile même de faire des choses utiles dans la vie et de ne pas entrer dans la moisson. Il est si facile de trouver toutes sortes d'excuses et de justifications à cela. Une des plus courantes est certainement de penser que l'évangélisation, c'est une affaire de spécialistes. C'est l'affaire des pasteurs. C'est l'affaire des missionnaires. Il faut être qualifié pour être un bon témoin de Jésus-Christ. Il est vrai que nous ne sommes pas tous appelés à prêcher. Il est vrai que nous ne sommes pas tous appelés à partir à des milliers de kilomètres de chez nous pour partager la bonne nouvelle de l'Évangile. Mais si je suis disciple du Seigneur, je suis témoin et donc je suis qualifié pour partager ce que Dieu a fait dans ma vie. Pas besoin de connaître la Bible par cœur pour être un bon témoin de Jésus-Christ. Pas besoin d'avoir fait des études de théologie pour être un bon témoin de Jésus-Christ. Pas besoin d'être tombé dedans quand nous étions petits pour être un bon témoin de Jésus-Christ. Pour être un bon témoin, il suffit de suivre le Seigneur, de l'aimer, d'être reconnaissant du salut qu'il m'a offert. Pour être un bon témoin, il suffit que je le lui demande et que je lui demande de se servir de moi. Pour être un bon témoin, il suffit de parler, de partager ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Le reste, c'est l'affaire du Seigneur. Ce n'est pas à nous d'être le garant des résultats de notre témoignage. C'est lui le garant. C'est lui le maître de la moisson, c'est lui qui a reçu tout pouvoir, toute autorité sur cette terre est dans le ciel pour cela. Au rang des explications de la grande omission, il y a aussi la peur. Toutes nos peurs. Lors d'une campagne de Billy Graham à Détroit aux États-Unis, il y a quelques années quand même maintenant, un sondage avait été réalisé. Et une des questions était: quel est votre plus grand obstacle au témoignage? Quel est votre plus grand obstacle au témoignage? 9% ont répondu qu'ils étaient trop occupés pour se rappeler de le faire. 12% ont répondu que leur vie n'était pas comme elle devait être. 28% ont répondu ne pas se sentir suffisamment équipés, qualifiés. Et puis 51%, donc de loin la réponse la plus répandue, ont répondu qu'ils avaient peur. Qu'ils avaient toutes sortes de peurs qui les paralysaient dans leur témoignage. Je comprends très bien ce dernier point. Et je pense que peut-être que vous aussi. La peur, en effet, peut nous paralyser. La peur de l'autre, de sa réaction, de ce qu'il va me dire. La peur d'être rejeté par lui. La peur peut-être d'être ridiculisé, moqué, injurié. La peur de ne pas savoir quoi dire, ne pas savoir répondre aux questions qui me seront posées. La peur de nous imposer, d'être pris pour quelqu'un d'intolérant. La peur de perdre nos amis, et j'en passe. Il y a toutes sortes de peurs qui peuvent nous bloquer, nous paralyser et nous empêcher de témoigner de l'amour de Dieu dans notre vie. Alors que faire? Qui allons-nous écouter? Dieu ou nos peurs? En qui allons-nous mettre notre confiance? En Dieu ou en nos capacités? N'oublions pas que notre responsabilité n'est pas la décision de celui à qui nous parlons, mais de dire l'amour de Dieu pour les hommes. Si la décision de l'autre ne nous appartient pas, agir avec sagesse est néanmoins essentiel. Ça, c'est notre responsabilité. Et si nous manquons de sagesse, alors nous pouvons le demander au Seigneur, nous pouvons la demander au Seigneur. J'ai lu l'histoire de cet homme qui avait décidé de prendre au sérieux cette parole de la fin de l'évangile de Matthieu. Il se trouve qu'il travaillait dans un salon de coiffure pour hommes. Et il était convaincu, il avait écouté la prédication, le pasteur qui avait partagé cela le dimanche, et lundi matin, il était résolu à partager sa foi avec les premières personnes qu'il rencontrerait. Et il décida de le faire avec le premier client qui s'est assis et qui était venu pour se faire raser la barbe. Après avoir fait mousser le savon sur son visage, il a pris son rasoir, vous savez, les rasoirs à l'ancienne, là, qui coupent bien. Il l'a posé sur la gorge du client. Et il lui a dit, dans son désir de témoigner, « Êtes-vous prêt à rencontrer votre Dieu ?» Nul besoin de vous dire que le client a détalé sans demander son reste. Il faut de la sagesse dans notre témoignage. Beaucoup de sagesse. Il y a des temps pour parler et il y a des temps pour se taire. Il y a des choses à dire et des choses à ne pas dire. Il y a des choses à faire et à ne pas faire. Et peut-être qu'à certains moments, on peut les faire et pas à d'autres, etc. Demandons au Seigneur la sagesse de nous guider quand nous voulons témoigner de son amour. J'aimerais, pour terminer, revenir à notre texte. Ces paroles de Jésus sont des paroles révolutionnaires pour les Juifs de l'époque. Vous savez, la religion juive, ce n'est pas une religion missionnaire. Ils n'avaient pas cette idée qu'ils devaient aller faire du monde entier des Juifs. Jésus parle à des disciples d'origine juive et il leur demande d'élargir, qu'ils élargissent leurs horizons, leur horizon. Je l'ai déjà dit, il y a quatre verbes dans le verset 19 et 20, en tout cas la première partie du verset 20, mais il n'y a qu'un seul commandement, faire des disciples. C'est ça le verbe principal. Un verbe principal auquel se rattachent trois participes présents, le verbe aller, le verbe enseigner et le verbe baptiser. Et j'aimerais simplement terminer en m'arrêtant sur le verbe aller. Pour faire des disciples, il faut aller. Il faut aller vers l'autre. On ne fait pas des disciples en restant égoïstement chez soi, en dormant et en jouissant de la vie dans notre coin. Faire des disciples, ça ne se fait pas tout seul. On ne fait pas des disciples en attendant que les gens viennent à nous. Ça peut arriver, mais c'est quand même plutôt rare. C'est nous qui devons aller là où ils se trouvent, y aller sans nous y perdre. Jésus n'a pas demandé, j'aime beaucoup cette phrase, Jésus n'a pas demandé au monde de venir dans l'Église, mais il a demandé à l'Église d'aller dans le monde. À la fin de l'évangile de Jean, nous trouvons cette parole de Jésus qui est tout à fait dans la ligne de cette fin de Matthieu. Jésus leur dit à nouveau « Que la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Je vous envoie dans le monde. Jésus nous envoie. Il nous dit, allez, en allant, faites des disciples. Allez et faites des disciples. Allez, pas forcément au Zimbabwe, pas forcément au bout de la terre, même si ça peut être le cas. Il se peut que Dieu ait ce projet pour l'un de nous ce matin. Et qu'il vous appelle à partir au loin, c'est possible. Mais quoi qu'il en soit, chacun de nous qui sommes disciples du Seigneur, nous sommes appelés à être missionnaires là où le Seigneur nous a placés. Et nous sommes appelés à aller dans nos familles, dans nos cercles d'amis, de connaissances, dans notre monde professionnel, dans notre voisinage. Aller là où le Seigneur nous a placés, parce que nous sommes tous missionnaires, si nous sommes disciples de Jésus-Christ. Et nous pouvons noter ici que aujourd'hui, de bien des manières, c'est le monde qui est venu à nous, qui est à notre porte. De façon physique, nous rencontrons des gens de toutes nations dans les rues aujourd'hui, et même de manière numérique. Il y a d'énormes possibilités par Internet, par exemple. J'ai lu cette semaine l'histoire de cette personne qui est venue au culte pour la première fois et qui a entendu pour la première fois le message de l'Évangile. Et quelques jours plus tard, le pasteur de cette église a reçu une lettre de cette personne. Voici ce que disait la lettre. Cher pasteur, dimanche dernier, je suis venu au culte et j'ai écouté votre prédication. Dans votre sermon, vous avez dit que tous les hommes sont pécheurs et rebelles à Dieu. Vous avez dit qu'à cause de leur rébellion et désobéissance, ils sont perdus éternellement et séparés de Dieu. Mais vous avez dit aussi que Dieu aime les hommes. Et qu'il a envoyé son Fils dans le monde, Jésus-Christ, pour le sauver de ses péchés. et que tous ceux qui croiraient en lui iraient au ciel pour vivre éternellement avec Dieu. Mes parents sont décédés récemment, tous les deux, à quelques semaines d'intervalle. C'est toujours dans la lettre, hein. Je sais qu'ils ne croyaient pas en Jésus que vous appelez le Sauveur du monde. Si ce que vous avez prêché est vrai, ils sont maintenant en enfer. Vous m'engagez à croire soit que votre message est vrai, ou alors que vous ne croyez pas en ce que vous prêchez, ou alors que vous n'en avez que faire. Nous habitons à 3 pâtés de maison de l'Église, et personne n'est jamais venu nous dire ces choses. Vous êtes des hypocrites. Et la lettre était signée. Alors je ne sais pas, je n'ai pas moyen de savoir si cette lettre a été vraiment écrite, mais en tout cas elle fait réfléchir. Elle m'a fait réfléchir, elle nous fait réfléchir. Dieu nous a confié son évangile et nous avons la responsabilité de l'annoncer, de le transmettre, de le passer à d'autres, la responsabilité de faire des disciples. On raconte que Moody, le célèbre évangéliste américain, marchait un jour dans les rues de Chicago quand il a vu un homme mal en point adossé à un lampadaire. Alors Moody s'est approché de lui, lui a posé la main sur l'épaule et lui a demandé s'il était chrétien. L'homme l'a regardé, a levé son poing avec colère et s'est exclamé « Occupez-vous de vos affaires !» Un petit peu moins gentiment que ça. Et Moody lui aurait répondu « Excusez-moi si je vous ai offensé. Mais pour être tout à fait franc avec vous, ce sont mes affaires. » Oui, ce sont nos affaires de partager l'Évangile avec notre prochain. Faire des disciples est l'affaire de tous les chrétiens. Ça ne marche plus. Bon, ben vous n'aurez pas la fin du diaporama. C'est l'affaire de tous les chrétiens. Allez, faites des gens de toutes les nations des disciples. Baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et de l'Esprit-Saint et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur nous envoie. Que répondons-nous? Nous pouvons dire comme Moïse, « Qui suis-je, Seigneur ?» Trouve quelqu'un d'autre parce que moi je ne me sens pas à la hauteur. Nous pouvons agir comme Jonas et partir dans la direction opposée. Nous pouvons aussi dire ce qu'a dit le prophète Ésaïe quand Dieu l'a appelé. Vous vous souvenez de sa réponse? Il a dit « Envoie-moi, envoie-moi. Qui enverrai-je? Envoie-moi, Seigneur. » Que répondons-nous à l'appel du Seigneur? Souvenons-nous que le Seigneur est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Je vous invite à quelques instants de silence.